Entre nous, nous avons déjà un certain nombre de points de vue différents. Et on constate également bien des différences avec des chrétiens d'autres églises. Et je pense que ces différences, il y en aura au moins jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et lorsque nous avons une opinion différente ou une pratique différente, de notre point de vue, nous avons tendance à considérer que nous avons raison, bien sûr. Enfin, j'espère bien que vous ne faites rien pour le Seigneur en vous disant que vous avez tort de le faire. Lorsque nous faisons quelque chose, nous pensons que nous avons raison. Et par conséquence, lorsque nous pensons que nous avons raison, on en déduit que ceux qui pratiquent autrement ont tort. Ou plus souvent, même on se dit, nous qui avons raison, on est fort dans notre marche avec Dieu, mais les autres, ils sont plutôt faibles. Faibles, par exemple, par leur connaissance de la parole de Dieu. S'ils ne croient pas la même chose que moi, c'est qu'ils n'ont qu'une faible ou une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. À moins qu'ils soient faibles par leur intelligence. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne la comprennent pas. Ou si ce n'est pas encore ça, peut-être c'est parce qu'ils sont faibles dans leur amour pour Dieu. Ils comprennent quelle est la parole de Dieu, mais ils n'aiment pas vraiment le Seigneur, pas assez pour le suivre. À moins encore que ce soit du fait qu'ils ont une faible volonté. Ils savent ce qu'est la volonté de Dieu, ils ont envie de suivre cette volonté, mais ils n'y parviennent pas parce qu'eux-mêmes sont trop faibles dans leur propre volonté. Et que faire, nous, qui sommes forts, par rapport à ceux que nous considérons à tort ou à raison comme faibles? Eh bien, la parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire, et c'est le titre de ma prédication. Accueillons les faibles dans la foi. Nous allons lire ensemble un assez long passage de la Bible. Et dans ce passage, Paul s'adresse à des chrétiens qui ont des points de vue différents sur certaines choses. Mais pourtant, il les exhorte à vivre ensemble, et plus que cela, encore, à grandir ensemble, parce que c'est la volonté de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Romains, au chapitre 14. Si vous avez cette traduction, c'est la page 741. Donc si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez l'emprunter, parce que je ne vais projeter aucun texte ce matin. Romains, chapitre 14. Et je vais lire ce matin l'ensemble du chapitre 14 et le début du chapitre 15. Accueillons celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, si nous appartenons au corps de Christ, eh bien alors le Seigneur attend quelque chose de nous, c'est que nous accueillons ses autres enfants. Accueillons ceux que le Seigneur a accueillis. Et il attend de nous que nous les accueillions, même si sur certains points, ils ont une opinion différente de la nôtre. Verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. » Et pourquoi devons-nous l'accueillir malgré tout ? Verset 3, « Nous devons l'accueillir, car Dieu l'a accueilli. » Nous ne pouvons pas rejeter quelqu'un que le Seigneur lui-même a accueilli. Nous ne pouvons qu'entériner la décision de notre Seigneur en accueillant au sein de l'Église locale celui que le Seigneur a déjà accueilli au sein de son Église, l'Église universelle. Alors je ne parle pas ici forcément d'accorder automatiquement le statut de membre à tout chrétien. Parce que dans notre fonctionnement d'Église, tel que nous fonctionnons, ce sont les membres qui orientent les décisions de l'Église. Or, on ne confie pas une responsabilité seulement de responsable à toute personne. Mais l'accueil dont il est question ici, c'est de recevoir parmi nous et de reconnaître pleinement comme frère ou comme sœur toute personne qui a placé sa foi en Jésus. De l'accueillir, même si cette personne n'a pas la même opinion que nous sur certains points, et que nous pensons que par sa foi, il est faible. Sa foi peut être faible, mais elle est réelle. Et puisque le Seigneur l'a accueilli, alors il est de notre devoir de l'accueillir nous aussi, sans discuter ses opinions. Et nous aurons d'autant plus de facilité à accueillir ceux qui auront des opinions différentes des nôtres, si nous sommes conscients des diverses responsabilités de chacun. Parce que parfois, on se sent responsable de tout, y compris de l'autre et de ses opinions. Et parfois, ça peut nous écraser, hein. Ou alors, ça peut nous amener à écraser l'autre pour le faire rentrer dans notre moule. Ou à l'inverse, des fois, on se sent responsable de rien par rapport à l'autre, et cette désinvolture peut nous amener, hein, par nos paroles ou nos attitudes, à causer bien des dégâts chez nos frères et sœurs, qui sont les plus faibles. Pour être en mesure d'accueillir ceux que nous considérons comme faibles dans la foi, ceux qui n'ont pas la même opinion que nous, il nous faut être conscients des responsabilités de chacun. Replaçons chacun face à ses responsabilités et tout d'abord, commençons par être conscients de la responsabilité de Dieu par rapport à ceux qui sont faibles dans la foi. Parce que lorsque le Seigneur accueille une nouvelle personne dans son Église, lorsqu'il accueille un nouvel enfant de Dieu, eh bien le Seigneur s'engage personnellement aux côtés de cette personne. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est de veiller sur ses serviteurs. Et ça, parfois, nous l'oublions et nous nous mettons à la place de Dieu. Eh bien, le Seigneur, lui, nous remet à notre place. Verset 4, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Dieu nous remet à notre place. Le Seigneur, c'est lui, ce n'est pas nous. Et par cela, Dieu nous permet d'avoir aussi un grand soulagement. Dieu nous soulage d'un fardeau bien trop lourd à porter pour nous. Ce n'est pas à nous de porter la foi des autres. Parce que c'est ça, c'est Dieu qui s'en charge personnellement. Alors, nous pouvons les soutenir, les accompagner. Nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres, mais ce n'est pas à nous de porter les autres dans leur marche avec Dieu. Dieu nous libère d'un fardeau. Et Dieu nous donne également de l'espoir et nous invite à lui faire confiance. Le Seigneur prend soin de l'autre, prend soin de ses enfants, malgré les différences qu'ils peuvent avoir avec nous. Et le Seigneur nous dit qu'il a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur veille sur lui. Notre responsabilité n'est non pas de porter l'autre, mais tout simplement de l'accompagner dans sa marche avec Dieu. Notre responsabilité n'est pas de porter l'autre dans sa foi, parce que ça, c'est impossible. En effet, chacun est responsable de sa propre foi. Et notre texte souligne en quoi consiste la responsabilité de tout chrétien. Et en premier lieu, c'est de vivre et de tout faire pour Dieu. Versets 6 à 8, « Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Que les chrétiens soient forts ou que les chrétiens soient faibles, s'ils ont réellement placé leur foi en Jésus, alors la même motivation les anime, le même principe oriente leur vie, mais aussi la même responsabilité. Vivre et tout faire pour le Seigneur. Ça veut dire que nous avons un point commun avec nos frères et sœurs, même si par ailleurs il nous semble qu'ils font des choses bien étranges. Vivre pour Dieu et tout faire pour Dieu. C'est ce que nous devons veiller pour nous-mêmes, mais nous devons également, ça c'est aussi notre responsabilité, nous devons également permettre à nos frères et sœurs de faire cela également, de vivre et de tout faire pour Dieu. Et ça, c'est important parce que chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu pour sa propre vie. Versets 10 à 12. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors le jugement dont il est question ici, ce n'est pas celui qui débouchera soit sur la mort, soit sur la vie éternelle. Les chrétiens, par leur foi en Jésus, sont au bénéfice du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour eux. Ils sont sauvés par grâce et par conséquent, ils échapperont à la condamnation et obtiendront la vie éternelle. C'est ce que nous voyons par exemple en Jean 5, 24, où Jésus nous dit, « Je vous le dis, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Nous serons pleinement sauvés par grâce. Mais cela ne nous dispensera pas de devoir un jour rendre des comptes à Dieu sur la manière dont nous aurons vécu notre foi. Et en fonction de cela, pour la vie éternelle, Dieu nous accordera ou nous placera dans telle ou telle situation. C'est parfois ce qu'on appelle, vous savez, les récompenses éternelles. Puisque chacun devra rendre des comptes à Dieu pour lui-même, il est important de laisser chacun assumer ses propres responsabilités devant Dieu. Nous ne serons pas tenus responsables pour la manière dont notre frère ou notre sœur a répondu de sa foi devant Dieu. Chacun devra rendre des comptes pour lui-même. Si notre passage souligne cette responsabilité individuelle, il souligne également nos responsabilités par rapport aux autres, et en particulier par rapport à ceux qui ont des différences d'opinion par rapport à nous. Et entre autres, il nous est dit ceci, ne condamnons pas ce qui n'est pas un péché. Verset 4, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Est-ce que parfois, nous ne sommes pas un peu trop rapides pour juger et condamner les autres ? Alors, il est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exhortés à combattre, à dénoncer et à repousser le péché sous toutes ses formes, dans nos vies, mais aussi dans celles de nos frères et sœurs. Et si par exemple dans l'Église il y a quelqu'un qui se prétend chrétien, qui est conscient de son péché, mais qui pourtant refuse de se repentir, il doit être, la Bible nous dit, chassé de l'Église. Chasser quelqu'un, c'est faire l'inverse de l'accueillir. 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Ce que je vous écris, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas à ceux de l'intérieur que vous devez juger ? N'est-ce pas à ceux de l'intérieur que vous devez juger ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Le pécheur qui est conscient de son péché, mais qui refuse de se repentir de son péché, manifeste par cela que son cœur n'appartient pas à Jésus, sa place n'est donc pas au sein du peuple de Dieu. Mais dans notre passage de Romains 14, il n'est pas question de pécheurs qui refusent de se repentir, mais de frères ou sœurs qui, sur certaines questions, ont des opinions et des pratiques différentes des nôtres. Des opinions et des pratiques différentes, peut-être, mais qui pourtant se fondent sur la meilleure des motivations qui existent devant Dieu, celle de faire les choses pour le Seigneur. Ça, c'est l'inverse du péché. Par le péché, on fait les choses contre le Seigneur, Notre texte nous parle de tous ceux qui font quelque chose pour le Seigneur. Et c'est ainsi que certains chrétiens considèrent que pour le Seigneur, il faut faire ceci ou ne pas faire cela. C'est ce qu'ils croient, mais pourtant parfois, cela ne correspond pas à un commandement de Dieu. Et dans notre passage, Paul appelle ces chrétiens les faibles, c'est-à-dire ceux qui adhèrent à l'Évangile, donc qui croient en la repentance des péchés, dans le salut en Jésus-Christ, par sa grâce, de la nécessité de la foi. Ils croient en cela, mais à côté de l'Évangile, ils observent aussi certaines règles qui restreignent leur liberté qui leur est accordée en Jésus. Mais qui pourtant, ces règles ne correspondent pas à un péché. Et qu'est-ce que les faibles, ceux qui rajoutent un certain nombre de choses à l'Évangile, qu'est-ce que les faibles ont tendance à faire par rapport à leurs frères et sœurs en Christ qui n'ont pas la même opinion qu'eux? La condamnation. Un chrétien ne devrait pas faire ceci, il ne devrait pas faire cela, ou au contraire, il devrait faire ceci ou cela. Est-ce que dans certains domaines, nous ne sommes pas tous des faibles? Est-ce seulement le péché que nous condamnons, ou bien ne nous arrive-t-il pas également de condamner aussi certaines pratiques, certaines attitudes sur la seule base de notre opinion personnelle, et que nous disons un chrétien ne devrait pas faire ceci ou bien il devrait faire cela? Mais nos convictions ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Si on gratte un peu, on n'arrive pas à trouver un fondement. Ne nous mettons pas à la place de Dieu, ne condamnons pas ce que Dieu ne condamne pas. Ne condamnons pas ce qui n'est pas un péché aux yeux de Dieu. Dans notre passage, Paul mentionne également les chrétiens, entre guillemets, forts. Les forts, ce sont ceux qui n'ont rien ajouté à l'Évangile. Ils savent distinguer ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui est uniquement des commandements humains. Et ainsi, ils font tout pour le Seigneur, mais en le remerciant pour la liberté qui leur était accordée en Christ. Mais qu'est-ce que les chrétiens forts ont tendance à faire par rapport à leurs frères et sœurs qui s'astreignent à toutes sortes de règles qui ne correspondent pas à des commandements de Dieu? Ils ont tendance à les regarder d'un peu de haut, n'est-ce pas? À les mépriser. Ne méprisons pas ceux qui ne connaissent pas la liberté en Christ. Ceux qui n'ont pas autant de liberté que nous. Verset 10, pourquoi méprises-tu ton frère? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de regarder nos frères et sœurs en Christ, parfois d'un peu haut, et de nous dire que ceux qui respectent toute une série de règles, qui ont toute une série de rites, de pratiques, de nous dire qu'en fait, ils sont faibles dans leur foi par rapport à Dieu? Voici quelques exemples où les chrétiens peuvent avoir des opinions ou des pratiques différentes. Est-ce que nous avons raison de mépriser ou bien de juger ceux qui, sur ces questions, ne voient pas les choses comme nous ou ne font pas les choses comme nous? Pour le Seigneur, certains vont mettre de beaux habits pour venir au culte afin de l'honorer. Ou au contraire, pour le Seigneur, certains vont s'habiller simplement pour marquer que l'on s'approche simplement du Seigneur et en toute humilité. Pour le Seigneur, certains vont faire un signe de croix, ou bien s'agenouiller, ou bien lever les mains. C'est un péché, ça? Je sais pas. Pour le Seigneur, on prend la scène. On la prend même si on n'est pas encore baptisé. Pour le Seigneur, on prend la scène chaque dimanche. Nous, c'est notre pratique d'église, par exemple. Mais d'autres vont la prendre pour le Seigneur, une fois par trimestre. D'autres pour le Seigneur, une fois par mois. Pour le Seigneur, on est resté célibataire ou bien on s'est marié. pour le Seigneur, on a eu des enfants, ou bien on n'en a pas eu. Pour le Seigneur, on respecte le carême et certaines fêtes. Ou au contraire, pour le Seigneur, on considère que tous les jours ont la même valeur aux yeux de Dieu. Pour le Seigneur, on vient au culte, mais parfois on arrive un peu en retard. Pour le Seigneur, nos frères et sœurs peuvent être amenés à faire des choses de manière très différente que ce que nous aurions fait à leur place. Ne condamnons pas ce que Dieu ne condamne pas. Et ne méprisons pas ce que nos frères ou nos sœurs font pour le Seigneur. Mais plutôt, cherchons à grandir à la ressemblance de Jésus. Verset 14-19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Verset 15-2. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour édifier. L'objectif que nous devons poursuivre ensemble, c'est de chercher à grandir à la ressemblance de Jésus. Et par quels moyens grandit-on ensemble à la ressemblance de Jésus? En faisant comme Christ a fait, et comme cela est indiqué dans notre passage, en cherchant à tout faire pour le Seigneur. Parce que notre responsabilité personnelle est engagée devant Dieu, et parce que nous devons chercher à grandir à la ressemblance de Jésus, il nous faut faire ce qui, à nos yeux, correspond à la volonté du Seigneur. Accomplissons ce qui nous semble, à nos propres yeux, correspondre à la volonté de Dieu. Et là, nous avons une formulation un peu curieuse de Paul, parce que nous sommes très attachés à la vérité, et nous avons raison. Mais Paul souligne là qu'il est de la responsabilité de chacun devant Dieu de faire les choses comme il a l'impression que le Seigneur veut qu'il les fasse. Même si peut-être, en fait, il n'est pas tout à fait dans la vérité. Verset 14. Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Et verset 23. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. L'important devant Dieu, c'est que chacun accomplisse ce qui lui semble correspondre à la volonté de Dieu. Et l'important pour nous, c'est de ne rien faire qui irait à l'encontre de ce que nous considérons comme étant la volonté de Dieu. Parce qu'agir à l'inverse de ce qui nous semble être la volonté de Dieu est un péché. Cela témoigne que notre cœur se détourne de Dieu. À partir du moment où nous pensons que quelque chose est contraire à la volonté de Dieu, nous péchons contre Dieu si nous le faisons, parce que nous le faisons contre le Seigneur. Et ça, c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour nos frères et sœurs. Du coup, nous devons veiller à ne pas inciter nos frères et sœurs à agir contre le Seigneur. Et si en particulier nous sommes forts, si nous savons qu'il existe des tas de choses que nos frères et sœurs font et qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, nous ne devons pas les encourager à aller au-delà de ce que eux considèrent comme étant la volonté de Dieu. Et parfois, nous devons mettre notre propre liberté de côté. Veillons à ne pas faire chuter nos frères et sœurs par notre liberté en Christ. Verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Nous devons éviter que notre liberté en Christ soit l'objet de critiques de la part de nos frères et sœurs plus faibles que nous. Verset 16, ce qui est bon pour vous, que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Et pour cela, nous devons être prêts à renoncer à notre liberté, tout au moins en leur présence. Verset 22, cette foi que tu as, Garde-la pour toi devant Dieu. Alors, il ne s'agit pas, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas pour nous de renoncer à accomplir la volonté de Dieu, parce que ça, ce serait un péché. Mais il s'agit simplement de ne pas faire usage de notre liberté en Christ, si jamais notre liberté personnelle est, pour nos frères ou sœurs, une occasion de chute. Mettons de côté, pour un temps, notre liberté personnelle, afin de pouvoir accueillir pleinement celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Et une fois que nous l'aurons accueilli, et une fois que nous nous serons mutuellement, aussi bien lui que nous serons assurés, ou rassurés même, que nous faisons bien tout pour le Seigneur, que nous sommes bien tous les deux des enfants de Dieu, alors, après cela, nous pourrons parler de nos opinions respectives et de nos divergences. Parce que le but du Seigneur, c'est aussi de grandir ensemble. Ce n'est pas simplement de rester figé sur ce qu'on croit maintenant. C'est de grandir ensemble, de grandir à la ressemblance de Christ, de nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous restreint, de tout ce qui nous limite et qui ne vient pas du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que nous puissions, avec nos frères et sœurs, rendre gloire à Dieu d'un même cœur, mais aussi d'une même voix. Et pour aborder nos divergences et pour nous permettre de grandir ensemble, le Seigneur nous a donné sa parole. Aplanissons, une fois que nous aurons accueilli, aplanissons nos divergences à l'aide de la parole de Dieu. Versets 15, 4 à 6. Tout ce qui était écrit l'a été pour notre instruction, afin que la persévérance et la consolation apportées par les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même voix, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par la parole de Dieu que nous prenons connaissance de qui est Dieu, mais également de quelle est sa volonté. Et nos opinions personnelles et nos pratiques respectives doivent se soumettre, s'évaluer et s'ajuster à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, en plus d'un même cœur pour le Seigneur, nous pourrons, avec nos frères et sœurs, également parler d'une même voix et ainsi renforcer encore plus notre accord avec eux et grandir à la ressemblance de Christ. Le projet de Dieu, c'est de nous faire grandir à la ressemblance de Christ. Est-ce aussi ce que nous voulons? C'est ce que nous voulons personnellement? Est-ce ce que nous voulons également pour nos frères et sœurs? Et est-ce ce que nous voulons en tant qu'Église? Est-ce que nous voulons grandir en nombre, en force, en maturité, en beauté? Si c'est ce que nous voulons, alors accueillons tout ce que le Seigneur a accueilli et dans l'amour fraternel, cherchons à grandir ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Restons fermement attachés à la volonté de Dieu. Ça, restons toujours fermement attachés. N'allons jamais vers le péché. Mais soyons très souples pour tout le reste. Usons avec prudence également et bienveillance de notre liberté en Christ, afin de ne pas dresser un obstacle dans ou sur la marche de nos frères et sœurs en Christ, ceux qui sont encore faibles dans la foi, ou en tout cas que nous considérons comme tels. Cherchons à aplanir nos divergences en cherchant ensemble ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et n'oublions pas ceci, faisons confiance à Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de son Église et Dieu a le pouvoir de nous affermir. Reposons-nous pleinement sur Dieu pour avancer.